Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous arrivons à l'étude numéro 3. Et comme vous le savez, il s'agit d'un thème assez difficile, corps, âme et esprit. Et le titre pour aujourd'hui que nous allons développer, c'est l'importance de la pensée. Or, cette étude n'est pas très facile. Donc, il est conseillé de l'écouter une deuxième fois. Ce ne serait pas une erreur, bien au contraire. L'Écriture sainte mentionne quatre sortes de pensées. Premièrement, la pensée du corps. C'est le cerveau que nous pouvons voir et toucher. Deuxièmement, nous avons la pensée de l'âme. C'est la pensée qui est non générée, c'est la pensée non régénérée qui contient telles que les émotions et la volonté. On ne la voit pas, bien entendu, mais elle est très puissante. Notez Colossiens chapitre 1, verset 21. C'est dans son domaine que nous bâtissons de vains raisonnements et des rêveries du domaine de la chair, bien entendu. Troisièmement, la pensée de l'esprit. C'est la pensée qui connaît et expérimente les réalités du domaine invisible. Cette pensée, chez les inconvertis, fonctionne également. C'est celle qui perçoit les phénomènes psychiques tels que la divination et la communication occulte d'esprits démoniaques ou familiers. Les démons peuvent, en effet, contrôler et prendre possession de ces trois sortes de pensées. Et quatrièmement, nous avons la pensée renouvelée. Ça, c'est la pensée qui est régénérée, qui est remplie de l'esprit et contrôlée par l'esprit, également appelée pensée de Christ. Aucun esprit satanique ne peut agir sur elle. L'apôtre Paul l'a mentionné dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. L'apôtre décrit ici l'entendement renouvelé qui a revêtu l'humilité même du Christ. Il n'offre aucune place à l'orgueil. Et notez Éphésiens chapitre 4, verset 23, et le verset 24, où il est dit « Et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme qui est créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. » Cette pensée de Christ est juste et sainte. Elle est créée à la ressemblance de Dieu. La pensée renouvelée transforme la personnalité. Dans Romains chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul écrit « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, et agréable et parfaite. La pensée renouvelée, c'est-à-dire celle de Christ, elle nous change et nous donne d'être renouvelés en connaissant selon l'image de celui qui l'a créé. Notez Colossiens chapitre 3 verset 10. C'est pour cela que l'apôtre affirme la vérité de Corinthiens chapitre 5 verset 7 quand il dit « En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, car les choses vieillies sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. » Ensuite, nous avons la pensée renouvelée qui apporte la guérison. Alléluia. La guérison de l'être humain commencera dans la pensée de son esprit déjà. Au fur et à mesure que l'esprit est guéri, il enverra ses rayons de guérison à la pensée de l'âme. Au fur et à mesure que l'âme sera guérie, il enverra également ses rayons de guérison à la pensée du corps. Et la guérison le conduira dans la pleine santé divine. C'est ce corps transformé qui pourra entrer dans le millénium. Et quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite, la mort a été englouti en victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, qu'est-ce que c'est? C'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 15 versets 54 à 56. Quand l'esprit sera sans péché, la mort n'aura plus d'aiguillon. Oh non. Et l'esprit peut donc devenir parfait. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie, elle m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8, verset 1 et 2. Jésus est mort afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair, surtout plus maintenant, mais selon l'Esprit. Romains, chapitre 8, verset 4. Nous avons la pensée renouvelée dans la vie, dans notre vie. Car la pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, verset 6. Donc, marcher dans l'esprit communique au corps une force surnaturelle. Et si l'esprit de celui, je parle de l'Esprit Saint, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, quand cet esprit-là habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. Romains, chapitre 8, verset 11. La vie de résurrection nous est offerte par le Saint-Esprit. Le mot vivifier vient du grec qui veut dire vitaliser, rendre vivant, donner vie, donc vivifier. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains chapitre 8, verset 13. Il faudrait que vous puissiez parfois noter ces indications bibliques comme Romains 8, verset 13 et les relire de temps en temps parce que c'est quand même très important pour mieux comprendre cette étude qui n'est de loin être la plus facile. C'est notre vie charnelle qui nous détruit. Notre pensée, elle est souvent remplie de soucis, d'inquiétudes, de craintes et de souvenirs malheureux qui agressent et qui aigrissent notre âme. Et c'est parfois mon cas, avec certains souvenirs qui viennent, que j'aimerais pas qu'ils viennent, que je chasse, mais que parfois, il y a des moments où l'ennemi peut nous les faire rappeler en quelque sorte. Et nous devons nous battre là contre. Il n'y a rien qui est définitivement acquis pendant que nous vivons sur cette terre. Nous devons donc faire mourir les actions de la chair. Nous devons amener toute pensée destructrice, captive et obéissante de Jésus, quelle qu'en soit la légitimité, et renverser tout raisonnement vain. Il y en a des raisonnements vains. Voilà ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Détruisons, est-il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, détruisons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous avons la pensée renouvelée qui, elle, édifie mon esprit. Gloire à Dieu. La connaissance divine qui vient par l'Esprit Saint à la pensée de mon esprit m'édifiera dans la très sainte foi. Il serait bien entendu une erreur de penser que tout ce que nous venons de voir ensemble nous sera offert automatiquement parce que nous avons quelques titres ou un rang important dans la société ou dans le système ecclésiastique. N'oublions pas que nous sommes dans un monde totalement nouveau. Et comment ? Ou même dans les écoles, il est interdit de parler de Jésus-Christ. Je n'invente rien. Le diable et ses millions de démons s'acharnent contre nous, car ils, au pluriel, ils savent que le temps qu'il leur reste touche à quoi ? Touche à sa fin pour eux. Et ça, c'est une réalité qu'ils connaissent encore mieux que nous. Oui, il y a la pensée renouvelée et la véritable inspiration. Là, il s'agit de l'influence qui dirige la pensée. Donc, l'homme a perdu, il est vrai, cette vérité, et cherche à établir une autre alliance, c'est-à-dire, il cherche à se couvrir d'une autre couverture, comme le dit Ésaïe, chapitre 30, verset 1, où il est dit que « Malheur au fils qui se rebelle, c'est ce que dit l'Éternel, pour former des desseins, mais non de par moi. et pour établir des alliances ou pour se couvrir d'une couverture. Mais non, par mon Esprit Saint, afin d'ajouter péché sur péché. Alors, si vous êtes mené par la chair, ça peut arriver à tout un chacun, vous ne deviendrez jamais très spirituel ou plus spirituel. Si l'Esprit de Dieu vous inspire, par contre, alors là, il n'existe aucune limite ni frontière aux hauteurs auxquelles Dieu peut, il peut vous élever. Il peut, toi qui écoutes, t'élever toujours plus. Laissez donc l'Esprit de Dieu vous couvrir, de son influence. Il est la véritable inspiration, à savoir, il est la pensée de Christ dans votre esprit. Un petit questionnaire. Premièrement, combien de pensées l'Écriture mentionne-t-elle? Citez-les, s'il vous plaît. Deuxièmement, comment la réalité spirituelle, bonne ou mauvaise, est-elle communiquée à un individu? Troisièmement, qu'est-ce que la pensée renouvelée? Et quatrièmement, mémorisez, si vous le pouvez, parce que quand on va contre 90 ans, ça devient beaucoup plus difficile. C'est mon cas. Alors mémorisez, si vous le pouvez, Éphésiens, chapitre 4, versets 23 et 24. Chers amis, quels sont les effets de la pensée renouvelée sur notre esprit? Eh bien, lorsque la pensée de Christ est renouvelée par la pensée de Christ, l'esprit, notre esprit, est transformé en un bel esprit de lumière. Die Sonne scheint. Le soleil brille en nous par Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 23 et 24. Cette pensée affecte aussi l'âme et les émotions et les change à la ressemblance de Christ, produisant ainsi en nous le fruit de l'Esprit Saint et non plus les œuvres de notre vieille nature. Galates chapitre 5, versets 23 à 25. Le fruit de l'esprit vient, on le comprend, d'un esprit pur. Notez Galates chapitre 5, verset 25, qui nous dit « Si nous vivons par l'Esprit Saint, marchons aussi par l'Esprit Saint. Ce n'est que en marchant dans l'Esprit Saint que nous pouvons manifester le fruit de l'amour, la foi, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il n'y a donc aucun moyen de produire ces fruits merveilleux par nos propres efforts, par vos efforts personnels. L'âme est incapable d'atteindre un si haut degré de perfection sans la force et la puissance d'un esprit arrivé à maturité et qui est contrôlé par une pensée totalement renouvelée. Le fruit de l'esprit ne peut devenir partie intégrante de notre nature que si nous laissons agir et se manifester la pensée saine, vivifiée par Christ, qui transforme notre âme à l'image de Jésus. Quand notre âme sera remplie de la lumière de Christ. Elle deviendra une belle source de lumière. Oh oui, une source de lumière qui fera automatiquement le bien, comme les réflexes du cerveau agissent sur le corps naturel. Tous les deux seront en parfaite coordination. Dès lors, Romains, chapitre 7, verset 19, va devenir une réalité. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Cela ne nous concerne plus, puisque Romains chapitre 8, versets 1 et 4 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, qui ne marche pas selon la chair, mais qui marche selon l'Esprit, qui dirige notre vie, qui dirige maintenant ta vie. Comme l'Esprit Saint transforme l'esprit, il agit aussi sur l'âme, puis sur le corps, qu'il revêt ainsi de lumière et de gloire. La Trinité de l'homme, corps, âme et esprit, est maintenant sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, fortement et aisément sous son inspiration. Cependant, cette transformation n'est possible que si nous disons avec Jean-Baptiste, il faut que Jésus, il faut qu'il croisse, qu'il grandisse, et que moi, je diminue. Saint Jean chapitre 3, verset 30. Nous voyons donc clairement combien la vie de l'homme est toute entière centrée autour de son esprit. Quand son corps est attaqué par des puissances démoniaques, simultanément l'âme puis l'esprit vont en subir les conséquences, et j'en sais quelque chose de ma jeunesse. Satan, il n'a pas le droit d'attaquer l'esprit directement. Dieu a placé sur lui cette fameuse malédiction où il est dit « Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Genèse chapitre 3, verset 14. Seule notre chair a été formée, me semble-t-il, de la poussière de la terre, selon Genèse chapitre 2, verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol. Donc Satan n'a donc été autorisé que à manger de la poussière. Ça veut dire qu'il ne peut pas toucher notre esprit, mais il sait, par contre, qu'il peut atteindre en attaquant notre corps, il peut indirectement atteindre l'esprit en attaquant notre corps. Qu'est-ce que j'ai été attaqué horriblement dans ma jeunesse? Horriblement. Eh bien, l'ennemi n'a pas non plus de droit sur notre âme, car Dieu a soufflé dans les narines d'Adam le souffle de la vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Genèse chapitre 2, verset 7. Il est devenu un nephesh en hébreu, c'est-à-dire il est devenu une personne vivante, il est devenu une créature qui respire et qui a une pensée. C'est le don de Dieu à notre Esprit éternel qui est consacré au donneur. Eh oui. Mais le corps est si proche de l'âme qu'il n'influence, qu'il peut l'influencer fortement. Donc, il peut constamment influencer de façon négative jusqu'à la, on peut dire jusqu'à la corrompre par les œuvres de la chair. Il est dit dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, notez quand même, s'il vous plaît, il est dit que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Ce n'est qu'en vivant dans l'esprit que nous triomphons de toutes les œuvres négatives de Satan. C'est plus vite dit que fait. Je suis d'accord avec vous. C'est Ein Kampf. C'est pas Mein Kampf, mais c'est celui que Jésus-Christ a bataillé pour nous jusqu'à mourir à la croix pour me laver par son sang précieux. Rappelez-vous, le serpent ne peut manger ni esprit ni âme. Il ne peut manger que de la poussière, c'est-à-dire de la chair. Mais Jésus, il est mort pour racheter celle-ci également. Et il a racheté votre âme et esprit. Romains chapitre 10, verset 8 concerne que ceux qui délibérément ont rejeté Jésus-Christ. Voyez-vous ? On peut s'éloigner de Christ, on peut s'éloigner d'une façon délibérée. Nous choisissons. Romains 12, verset 8 décrit le pécheur que Dieu a livré à un esprit réprouvé pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas. On rencontre des gens qui manifestent tous ces aspects de la perversité et qui n'ont absolument aucune conscience du péché. Il y a donc ceux que Dieu a livrés à un esprit réprouvé de leur vivant même. C'était mon cas autrefois. Ils utilisent leur corps de façon animale et s'engagent dans toutes sortes de péchés sexuels pervers. Ils sont remplis de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Ils sont pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de fraude, de mauvaise mœurs. Ils sont délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards, inventeurs de mauvaises choses, désobéissants à leurs parents. Ils sont intelligents, mais sans intelligence véritable, ça veut dire sans l'intelligence de l'Esprit-Saint, ne tenant pas ce qu'ils ont promis. Sans affection naturelle, ils sont sans miséricorde, et qui ayant connu la juste sentence de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de quoi ? Sont dignes de mort. Non seulement ils les pratiquent, mais encore ils trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. Romains chapitre 1. Notez le verset 29 jusqu'au verset 32. Oui, quelle terrible liste de péchés. C'est affreux. Mais vous n'avez pas besoin d'aller dans les bas-fonds ou à la réprobane pour en voir la manifestation. Certains se pratiquent hélas même dans l'Église, voire parfois dans le ministère. Comment croyez-vous comment un aveugle peut-il diriger un autre aveugle? Comment les brebis peuvent-elles s'élever plus haut que ces soi-disant conducteurs charnels, contaminés par beaucoup plus qu'un seul péché? Eh bien, ça, c'est impossible. Mes bien-aimés, ces choses vont donc devoir être mises en ordre dans notre vie. Il nous faut absolument nous élever à la ressemblance de Jésus. Satan nous attaquera de toutes les façons pour nous en empêcher. Nous admirons le plus ceux qui peuvent résister. Comment donc, chers amis, échapper à une telle force de destruction? Il y avait une téléphoniste, une jeune femme engagée, qui a trouvé un emploi, parce que c'est pas évident aujourd'hui, comme téléphoniste professionnelle. Or, elle était environnée d'hommes et de femmes qui, à côté de leur travail, parlaient à tout moment de choses épouvantables qu'ils pratiquaient. Je dis bien épouvantables, vous n'avez pas besoin de détails, je l'espère. Et bien qu'elle était chrétienne convaincue, elle a dégringolé dans sa foi. Et finalement, quand elle était au bas de l'échelle, comme on peut dire entre nous, elle a compris qu'il n'y avait qu'une chose, c'est soit quitter ce travail, ou tomber encore plus bas, si c'est possible. Vous direz, oui, c'est bien beau tout cela. Quand il y a un chômage terrible, comment est-ce que c'est vraiment indiqué de quitter son travail uniquement pour pouvoir échapper à toute la journée à des insanités? Elle l'a fait bien sûr en priant, en mettant la chose devant le Seigneur. Elle l'a pas fait d'un coup de tête comme ça, en se disant, moi, je suis encore jeune et jolie, pas de problème. Non. Elle a fait ça dans les règles. Et le Seigneur lui a procuré un travail où elle a même pu, dans une clinique privée, faire des cours, suivre des cours, pour devenir infirmière. Et là, c'était terminé, toute cette saleté. Chers amis, vous pouvez y échapper en renouvelant votre pensée. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Ça, c'est un verset d'un grand secours, où il est dit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit, c'est-à-dire la pensée, qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Vous devez donc personnellement coopérer avec le Seigneur, c'est la moindre des choses, pour vivre dans cette attitude de paix. Il vous faut, avec l'aide de votre couverture, c'est-à-dire l'Esprit Saint de Dieu, demeurer dans une attitude paisible de pensée sans permettre aux doutes, aux craintes, aux pensées mauvaises, aux souvenirs très tristes ou aux mensonges sataniques de s'emparer de vous. Vous pouvez vous élever au-dessus de toutes les corruptions, toutes les tempêtes, tous les courants rapides de traîtres de la vie. Oui, il y a des traîtres de la vie. En étant assis dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans le Christ Jésus, par l'Esprit Saint. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Donc, aussi longtemps que votre pensée restera fixée sur Christ et les choses de Christ, Elle enverra tes messages de guérison et de restauration aux membres de votre corps, leur donnant d'être restaurés, renouvelés et recréés à l'image de notre modèle céleste originel. La pensée renouvelée permettra au corps de prendre en quelque sorte une forme totalement spirituelle qui est transformée, transfigurée, transportée, comme celui de Jésus l'a été à différents moments de sa vie. Par exemple, le Christ pouvait transformer son corps. Dans Saint Luc, chapitre 4, verset 3, Saint Jean, chapitre 8, verset 59, et toujours Saint Jean, chapitre 10, verset 39, nous voyons comment ses ennemis ont cherché à le saisir, mais ils n'y sont pas parvenus. Mais lui, Jésus, passant au milieu d'eux, tout simplement, s'en alla. Saint Luc, chapitre 4, verset 30. Il a donc littéralement glissé hors de la foule, sans que personne ne le touche. Ils ont pris des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple, passant au travers d'eux. Et ainsi, il s'en alla miraculeusement. Saint Jean, chapitre 8, verset 59. Jésus se cacha. Cela signifie, dans le texte original, que Jésus était en quelque sorte caché de leur vue. Ça, c'est du miraculeux. Donc cet événement a eu lieu juste après que Jésus a rendu témoignage à sa divinité. En vérité, je vous dis, avant que Abraham fût, je suis. C'est ce qu'a dit Jésus. Saint Jean, chapitre 8, verset 58. Ils ont cherché encore à le prendre, mais il a toujours échappé de leurs mains. Saint Jean, chapitre 10, verset 39. La raison pour laquelle personne ne pouvait arrêter Jésus était que son heure n'était pas encore venue. C'est ça. Cette heure n'était pas encore venue où il allait donner sa vie. Saint Jean, chapitre 7, verset 30. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait jamais le tuer. Personne ne m'ôte la vie, a-t-il dit. Je la laisse de moi-même. Saint Jean, chapitre 10, verset 18. Ce sont des paroles de vérité. Donc, écoutez bien, il a donné sa vie de lui-même, de plein gré. Nombreux sont les vainqueurs qui auraient pu échapper à la mort, mais qui continuent à sceller leur témoignage dans leur sang parce qu'ils veulent suivre les traces de Jésus et laisser leur vie de plein gré. Hébreux, chapitre 11, verset 35, nous dit « Et d'autres furent torturés, n'acceptant pas la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. » Lorsque vous vivez dans l'esprit, votre esprit est plus fort que votre carcasse. Le corps ne peut pas diriger l'esprit. Même la torture ne peut contraindre l'esprit à se rendre à se rendre tout simplement à l'ennemi. Certains martyrs, par exemple, ils sont morts sans même ressentir aucune douleur, même au milieu des flammes, tout simplement parce que leur esprit avait un total contrôle sur la chair. Ils étaient totalement détachés du monde physique. Je ne dis pas que c'est difficile ou facile de croire que ce que je viens de vous dire, mais c'est une réalité et ça vaut la peine de méditer là-dessus pour comprendre que dans certaines situations incroyablement terribles, Dieu peut faire un miracle pour nous. Je sais qu'il existe un point où on peut vivre continuellement dans l'onction et Dieu va nous y conduire au fur et à mesure que nous sommes prêts à nous y abandonner. Jésus ne pouvait pas être tué. Il a rendu son esprit au Père. Saint Luc chapitre 23 verset 46 déclare « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Le terme « remettre » en grec veut dire « déposer comme garantie ou pour protection. » Jésus a libéré son esprit de son corps, sachant qu'il reviendrait le réclamer et le ressusciter, transformer donc et glorifié. Mais même avant cela, il vivait à un si haut niveau spirituel que son corps pouvait être transformé dans la gloire, exactement comme le jour de la transfiguration. Matthieu chapitre 17, verset 2. Notez Saint Marc chapitre 9, verset 2. Notez Saint Luc chapitre 9, verset 29. Et Saint Matthieu, chapitre 17, verset 2. « Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière, grâce au changement de son corps. » Jésus pouvait être transporté, premièrement, sur une haute montagne, Saint Luc chapitre 4 verset 5. Deuxièmement, sur le faîte du temple de Jérusalem, Saint Luc chapitre 4 verset 9. Et troisièmement, même sur l'autre rive de la mer de Galilée, selon Matthieu chapitre 4 verset 25, chapitre 6 de Saint Marc, verset 48, et Saint Jean, chapitre 6, verset 25. Il a même transporté la barque du milieu du lac jusqu'à sa rive, selon Saint Jean, chapitre 6, verset 21, et Saint Jean, chapitre 6, verset 19 à 21, ayant donc ramé 25 ou 30 stades. Il voit Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la nacelle, et ils furent saisis de peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez point peur. » Ils étaient donc tout disposés à le recevoir dans la nacelle, et aussitôt la nacelle elle prit terre au lieu où ils allaient. Il a 25 à 30 stades, cela représente entre 4,5 et 5,5 kilomètres. La mer de Galilée, elle fait environ 19,5 kilomètres de long et 9 kilomètres de large, dans sa plus grande largeur. Ceci nous donne donc une idée approximative de la distance parcourue par la barque pendant la tempête. Et lorsque nous vivons dans l'esprit, tout ce que nous touchons est béni et oint. Oui, toutes nos œuvres sont belles. Demandez à une femme qui est ointe de faire la cuisine ou des gâteaux. Cela lui est devenu facile. Mais pour celle qui n'est pas ointe pour ces tâches-là, faire la cuisine peut être une corvée. Il en est de même pour tout. L'onction de l'esprit repose donc sur tout ce que Dieu vous appelle à faire. Faites votre part, accomplissez la vocation de votre vie, votre esprit revêtu de l'onction du Saint-Esprit, et cette onction affectera votre âme et votre corps. Vous serez satisfait et vous ne chercherez pas à être ou à faire ce que Dieu ne vous a pas du tout appelé à être ou de faire. Par exemple, Moïse, il a reçu une touche de cette merveilleuse transformation. Oui, c'est vrai. Moïse a reçu. Le corps de Moïse possédait exactement la même gloire de transfiguration. Lorsque, rappelez-vous, quand il est descendu du mont Sinaï, après être resté si longtemps, c'est-à-dire 40 jours, dans la présence de Dieu, Exode 34, versets 29 à 30. Et il arriva, est-il dit, que lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, et les deux tables de témoignage étaient dans la main de Moïse, lorsque il descendit de la montagne, Moïse ne savait pas du tout que la peau de son visage rayonnait parce que il avait parlé avec Dieu. Et Aaron et tous les fils d'Israël ont vu Moïse. Et voici, est-il dit, la peau de son visage rayonnait et il craignait même de s'approcher de lui. C'était la même gloire spirituelle qui avait transformé Jésus sur la montagne de la transfiguration. Je crois que les témoins d'Apocalypse, chapitre 11, versets 1 et 2, posséderont aussi sur leur corps la même œuvre de gloire, parce que personne ne pourra leur nuire, personne avant qu'ils n'aient achevé leur témoignage. Apocalypse, chapitre 11, verset 7. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les mettra à mort. Pour terminer cette étude, j'ajouterai que Moïse a été moins pour jeûner pendant 40 jours. N'essayez pas de jeûner 40 jours dans la chair. Ça peut être dangereux. Si vous en sortez, vous serez probablement ouvert à un esprit religieux ou même à un esprit d'orgueil religieux. Votre pensée, elle doit d'abord être renouvelée par la pensée de Christ avant que vous ne vous lanciez dans un long jeûne. Il faudra quand même boire du liquide sans subir des dommages physiques qui peuvent être irréparables. Donc, faut pas faire cela à la légère et surtout pas par orgueil. Et puis aussi, si vous êtes en mauvaise santé ou trop âgé, je vous le déconseille vivement. Il faut vraiment être en quelque sorte costaud, en bonne forme et encore assez jeune. Chers amis, nous allons terminer cette étude que, je répète, n'est pas la plus facile. Nous allons donc prier maintenant ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous bénissons ton saint nom pour ce témoignage rendu à la vérité, cette persévérance indomptable, cet héroïsme que nous contemplons chez les premiers disciples du Christ au jour où tu établissais ton Église, non par la violence, mais par le rayonnement de ton Saint-Esprit. Nous t'en prions, fortifie-nous par ton Saint-Esprit. Donne-nous de marcher sur les traces de ces témoins fidèles, dans la foi comme dans les œuvres, et prépare-nous à souffrir patiemment, même s'il le faut, la mort, pour l'amour de ton saint nom et de ton témoignage. Donne à notre Église et à la chrétienté tout entière le Saint-Esprit et la puissance, le Saint-Esprit et la charité, car ton Christ bien-aimé nous a voués à la tendresse mutuelle, à l'unité profonde. C'est donc là, ô notre Père, le caractère distinctif et la marque prédestinée de la famille chrétienne ici-bas. Et c'est par le signe de l'amour fraternel que le monde reconnaîtra tes enfants jusqu'à la fin des âges. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, parfois, tout de même, pas toujours, toujours très, très faciles. Et c'est pour cela, il n'est pas défendu d'être humble et de réécouter un tel CD, une telle étude. Nous n'avons pas besoin de penser que nous avons tout compris du premier coup. Ça peut arriver. Il y en a même des serviteurs qui m'ont dit qu'ils n'ont même pas besoin de préparer leur culte, car le Seigneur le leur donne par le Saint-Esprit au moment où ils montent sur l'estrade pour prêcher. Ce n'est pas mon cas, je vous l'avoue humblement. Je dois vraiment beaucoup, comment vous dites en français, des termes des fois que j'ai appris que par l'oreille, je dois me démener, potasser, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai entendu ça. Je dois vraiment, on peut dire, des fois, aller au-delà de mes possibilités pour pouvoir préparer de telles études. Et sans le Saint-Esprit, je vous dis franchement, je ne pourrai jamais le faire, pas par mes propres efforts, car d'abord, j'ai pas fait les études qui conviennent ou qu'il aurait fallu. Alors, je suis tributaire totalement de l'aide surnaturelle de Christ. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse, c'est mon désir absolu. Et il aime tous ceux qui viennent à lui humblement pour demander son aide. À bientôt, à demain matin, Dieu voulant. Au revoir.